Les archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
L'appel que je lance à tous les membres de la communauté, à la France métropolitaine particulièrement, c'est de nous aider à développer l'économie de notre territoire, à faire un contrepoids puissant à la zone sterling. Car le développement économique du Niger sera bénéfique non seulement pour le territoire, mais pour l'ensemble de la communauté.
Premier président d'un État situé aux portes du désert, soumis 11 mois sur 12 à un brûlant soleil, Gioriamani aura réussi, malgré l'extrême pauvreté du Niger, à l'installer dans le concert des nations, à lui donner une certaine respectabilité et de la dignité. Ardent défenseur d'un ensemble réunissant les pays ayant en partage le français, il aura dirigé ce vaste ensemble sahélien pendant près d'une quinzaine d'années, avant d'être renversé par un groupe d'officiers réunis dans un comité militaire suprême. Le 15 avril 1974. Dans la série d'émissions que nous lui consacrons, nous avons parcouru les grands moments de sa vie jusqu'à la période où il se retrouve en résidence surveillée à Niamey. Mais l'actualité et les réactions de ses proches et anciens collaborateurs qui ont tenu à apporter leur témoignage et à dévoiler certains aspects de sa vie qu'ils ont souhaité garder secret jusque-là, nous amènent, c'est exceptionnel dans ce magazine, à revenir quelques années en arrière, au moment du putsch, cette fameuse nuit du 15 avril 1974. La nuit est tombée depuis quelques heures lorsque le commando chargé de prendre d'assaut la présidence entre en action. À l'entrée, un garde installé sur le mirador ouvre le feu. C'est le début d'un échange de tirs à la mitraillette et au pistolet automatique. Quelques instants après, la présidence est sous contrôle des putschistes. Mumuni Gioriamani, le fils du président, était avec ses frères et sœurs dans le palais assiégé.
À la tête de ce commandant était le lieutenant Cyril Gabriel, qui connaissait très bien le palais, parce que c'était un ami intime de notre grand frère Abdoulaye et notre frère aîné. Il connaissait très bien le palais et il a facilement localisé l'endroit où étaient nos parents.
En très peu de temps, l'assaut se solde par l'arrestation du président Gioriamani. Son épouse, Aïssa Diori, a eu moins de chance. Elle a été sauvagement tuée pendant la bataille, devant ses enfants et des membres de sa famille. Près de 30 ans après ce putsch, les mutins, les officiers qui ont perpétré ce coup d'État, parlent toujours d'un accident. Voici en bref ce que nous disait dans la précédente émission Mumuni Germakoy, l'un des officiers membres du CMS, le Comité Militaire Suprême, qui a perpétré ce coup d'État du 15 avril 1974. Il parlait de la mort d'Aïssa Gioriamani.
C'était absolument un accident, dû par le simple fait que on ne devait pas, au palais, avoir à tirer un seul coup de feu. Malheureusement, comme Sani n'avait pas prévu cet élément au grand portail, il y a eu le déclenchement des coups de feu, il y a eu un combat acharné, il y a eu des tirs en l'air. Et malheureusement, c'est sous le coup des balles perdues que Madame Diori était tombée.
Un scénario que soutient également l'officier Mahaman Ousseni, qui était à la tête des troupes qui ont pris d'assaut le palais.
Je vous ai parlé tantôt du commando qui était chargé de rentrer dans la résidence et de prendre le président Fejoué Amani. Pour qui connaît la résidence d'antan, en entrant vous avez un couloir. Et dans ce couloir, et au fond du couloir, il y avait un très grand miroir qui couvrait tout le couloir. Le commando en rentrant Les premiers commandos qui étaient rentrés avaient eu l'impression d'avoir en face d'eux des combattants, mais à partir du miroir. Et ils ne savaient pas qu'il y avait un miroir. Donc, dès qu'ils ont vu les combattants en tenue, vous voyez, dans l'euphorie, ils vont imaginer que c'était le miroir, le reflet du miroir.
Ils ont tiré sur le miroir et des rafales. Et là, il y a ce qu'on appelle les balles perdues. Elles étaient nombreuses. Et de la manière dont moi, j'ai vu le corps de Feu Aïssa, puis à son âme, puisque je suis rentré après les opérations, juste après, je pense, et ça doit être ça, qu'elle s'était levée en entendant les bruits des rafales, et là, les balles l'ont atteinte.
Cette thèse des balles perdues va rapidement trouver ses limites, même si pendant longtemps elle va rester la version officielle. Les enfants de l'ancien président qui ont assisté à la scène, qui l'ont vécu de près et qui étaient avec leurs parents cette nuit-là dans le palais, ont enfin décidé de sortir de leur mutisme, du silence qu'ils s'étaient imposé pour raconter ce qu'ils ont vécu, pour établir en somme leur vérité. Moumouni, le quatrième enfant du président Duryamani, était présent ce soir du 15 avril 1974. C'est dans ses bras que sa mère est décédée.
Le sergent Nyandou a d'abord déchargé carrément son chargeur sur notre maman et il a transpercé son flanc gauche avec sa baïonnette. Mais notre maman n'est pas morte sur le champ parce qu'elle a eu le temps de me parler. Elle a eu le temps de me demander après notre grand-mère Sadio, notre tante, notre frère Emi Abdoulaye, notre soeur Ramatou, et comme pour l'apaiser, je lui disais que tous ces gens étaient présents. Je ne savais pas, mais je lui disais comme ça que tous ces gens étaient là.
Cela se passait devant vous alors?
Oui, c'est passé effectivement devant moi. J'étais témoin de cette scène, de cette horrible scène.
Donc qu'est-ce que vous répondez?
Je suis désolé aujourd'hui d'en parler, mais je pense que il est grand temps qu'on mette si on peut s'exprimer ainsi, les pendules à l'heure.
Alors, vous avez rencontré le sergent Nyandou entre-temps?
Le sergent Nyandou, c'est seulement le lendemain qu'il était dans la ville et il est passé chez notre grand frère Abdoulaye. Et dans la ville, il le disait à qui voulait l'entendre qu'il a eu des instructions pour assassiner notre mère.
Ramatou Diouri, l'une des filles du président qui à cette époque vivait en Côte d'Ivoire, était justement revenue à la maison à Niamey quelques jours plus tôt pour passer les vacances de Pâques. C'est dans ces circonstances qu'elle a assisté au putsch.
Je tiens d'abord à réfuter les déclarations d'un de vos invités,
oui,
des émissions précédentes, selon lesquelles aucun coup de feu ne devait être tiré au cours de cette attaque. En fait, le commandant Sani avait bel et bien remplacé les éléments de la garde chargé de la protection du palais. Il avait même fait retirer quelques jours auparavant des armes donnant sur l'entrée principale qu'il avait lui-même installée. Et le même commandant Sani a fait un court passage dans les appartements privés aux alentours de 22h le 14 avril 1914, probablement pour s'assurer que tout était en ordre et se déroulerait selon son plan. Et j'étais aux côtés de ma mère, avec qui il a même discuté, alors que à ce moment-là, il avait déjà donné l'ordre de l'assassiner. Donc la seule résistance rencontrée par les militaires venait du soldat du Mirador et du sergent Badié qui étaient armés d'un pistolet. Le sergent Badié étant tué, l'accès aux appartements privés était donc libre. Et au cours de cette attaque, 9 personnes de notre famille, dont ma mère, ont trouvé la mort au cours de cette attaque. Pour une opération au cours de laquelle aucun tir ne devait être effectué, vous conviendrez que le bilan est particulièrement lourd.
9 personnes?
9 personnes, oui. Dont une tante de ma mère qui n'était pas armée.
Cela veut dire qu'à aucun moment dans la maison, il n'y a eu d'échange de tirs de feu.
Il y a eu des échanges à l'entrée. Le sergent Badié, je vous ai dit qu'il y avait deux, la résistance qu'ils ont rencontrée, c'était le soldat du Mirador et le sergent Badié. Et donc, une fois le sergent Badié assassiné, l'accès aux appartements privés étaient donc libres. Et quand ces militaires sont arrivés aux appartements privés, ils se sont retrouvés en face d'enfants et d'adolescents. Et cela ne les a pas empêchés, et surtout le sergent Nyandou, de lancer une grenade et de continuer à tirer ses rafales. Et c'est tuant sur le coup deux de nos cousins et blessant grièvement mon frère Moussa. Et mon autre frère Moumouni, qui a vu la scène, a appelé notre mère au secours en lui demandant, en lui disant que Moussa était blessé. Et c'est en avançant vers Moussa qu'elle a été fauchée par une rafale de mitraillette avant d'être achevée d'un coup de baïonnette.
Ah, et c'était vraiment de l'acharnement.
De l'acharnement, exactement. Et alors, pour preuve, les habits qu'elle portait ce jour-là, ces habits ont donc les impacts de balles et du coup de baïonnette. Et ces habits, nous les avons conservés en l'état.
Abdoulaye, le fils aîné du président Yoweri Amani.
Moi, je pense que, d'après ce que le sergent Nyandou raconte à qui veut l'entendre, il dit que le capitaine Sani lui a donné l'ordre formel. Sa mission principale était d'abattre Madame Yoweri Amani. Lui, il avait à comme mission.
Mais dans quel intérêt avait-il besoin de l'abattre?
Bon, je pense que c'est par... comment est-ce que on peut dire? C'est par fétichisme, puisque ils auraient dit à qui voulait l'entendre que si elle était vivante, que le coup n'allait pas réussir.
C'était l'ordre des marabouts, en somme.
Je pense, tout à fait.
Le putsch réussit. Le président Yoweri Amani est incarcéré dans un camp militaire à Zinder. Il va y passer 6 années avant que son successeur n'assouplisse sa peine et le transfère à Niamey, où il va vivre en résidence surveillée dans une villa. Il sera ensuite libéré en 1984 à l'occasion du 10e anniversaire du putsch qu'il a renversé. Mais cette liberté va être de très courte durée, puisque un an plus tard, son fils Abdoulaye est accusé d'avoir participé à une opération militaire, l'attaque d'un poste frontière dans le nord du pays, à Tchintabaraden. Le chef de l'État, Séni Kountché, furieux, qui y voit une action de la Libye pour réinstaller son prédécesseur dans le fauteuil présidentiel, le met à nouveau en résidence surveillée. Abdoulaye Yoweri Amani, comment vous êtes-vous retrouvé au centre de cette attaque du poste de Tchintabaraden? Plus de 30 ans après, il y a eu amnistie sur tous ces événements. Dites-nous, étiez-vous mêlé à cette opération commando?
Je n'étais mêlé ni de près ni de loin. Je l'ai appris par les ondes également.
Mais comment ça se fait qu'on puisse vous mettre en cause si vous n'êtes pas mêlé?
Vous savez, très régulièrement, il y avait ce qu'ils appellent la conférence des cadres, où on mettait tout sur mon dos. Alors, ça procédait un peu de cette pratique-là.
Cela veut dire que vous n'aviez même pas de relation avec la Libye, que vous n'avez pas été approché à un moment ou à un autre par la Libye?
J'ai des relations. J'avais de très bonnes relations avec la Libye, puisque même avant le coup, j'étais représentant de la Libyan Arab Airlines. Et j'ai noué de très bonnes relations avec beaucoup d'amis libyens. Et j'ai jusqu'à présent de très bonnes relations avec la Libye.
Mais pas militaire?
Non, pas militaire.
Cette fois-ci, les conditions de la résidence surveillée du président Yoweri Amani vont être particulièrement sévères. Ramatou Diori, la fille de l'ancien président, a vécu cette période.
Je l'ai vécu parce que à chacun de mes passages, personnellement, j'ai eu droit à de nombreuses fouilles, dont la fouille au corps à l'aéroport de Niamey.
Novembre 1987, le président Séni Kountché, qui connaît depuis quelque temps de sérieux soucis de santé, est à nouveau à Paris lorsque les programmes de la radio nationale sont interrompus par ce discours de Ali Chebou, le chef d'état-major des armées.
Nigérien, en ma qualité de chef d'état-major général des forces armées nationales, assurant l'intérim du chef de l'État, j'ai le triste devoir de vous annoncer que le chef de l'État, le général de division Saint-Coulier, n'est plus. Il s'est éteint cet après-midi à 15h15 à Paris. Un deuil national d'un mois sera observé. Les drapeaux seront mis en berne sur l'étendue du pays.
De la mort du président Zeni Kounché, Ali Chebou, son neveu, qui annonce ainsi son décès, les sanglots dans la voix, devient le nouveau président de la République du Niger. Et bien qu'il inaugure son régime en le plaçant sous le signe de la continuité, sa première décision est de libérer le président Diori Amani, qui le remercie.
J'ai été agréablement surpris par la déclaration devenue historique du 21 novembre de l'année en cours, à la conférence des cadres, au cours de laquelle le chef d'État, dans un grand élan de magnanimité, a manifesté son patriotisme, son élévation de pensée et son amour sans faille de la patrie nigérienne. Par son geste de clémence à l'endroit de tout le monde, nous avons répondu, mes enfants et moi-même, à son appel historique pour construire les bases sur les bases saines. Et si aujourd'hui vous me voyez entouré de mes enfants et de mon beau-frère, c'est pour lui apporter la caution de toute ma famille et par-delà ma famille, de tous mes amis, que nous sommes décidés à coopérer dans la construction nationale qu'il entend lancé pour le plus grand bien de l'ensemble de notre peuple. À mon âge, je n'ai aucune ambition politique, mais dans la mesure où mon avis est sollicité, je donnerai volontiers mon point de vue sur certains problèmes de la nation, des problèmes mondiaux. Voilà mon souhait, ce que je souhaiterais aussi, que le Niger vive en paix, dans la tranquillité, pour amorcer son décollage économique, créer le bonheur de l'ensemble du peuple, l'épanouissement sur le plan culturel et aussi que son prestige rayonne à travers le monde entier.
En même temps que le président Diori Amani, le nouveau chef de l'État, dans un esprit de réconciliation nationale, libère Djibo Bakary, qui en d'autres temps, dans les années 60-70, avait essayé de renverser le régime de Diori Amani. Libre après près d'une quinzaine d'années d'incarcération, le président Diori Amani va enfin pouvoir voyager. Il va pouvoir rendre visite à ses nombreux amis chefs d'État qui lui ont gardé pour la plupart toute leur estime. Mais la trahison de certains, il ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié que certains de ses pairs, de ceux qu'il considérait comme des amis, presque comme des frères, l'ont trahi. Qui n'ont rien fait pour éviter sa longue traversée du désert. Il va le leur montrer à sa façon. Nous en parlerons justement dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Diori Amani. Nous parlerons également de la fin de sa vie, avec quelques personnalités qui l'ont bien connu. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nous n'avons le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
L'ancien président Diori n'est pas le seul homme politique qui a marqué le Niger, qui se trouve dans une certaine position. Effectivement, nous avons eu à reprendre il y a un an certaines mesures contre lui en fonction des événements de Tchitbaraden. Il y a des familles qui ont perdu, effectivement, dès lors. L'ancien président avait dit que c'était fabriqué de toutes pièces. De deux, son fils y était bien mêlé. Donc nous n'en voulons pas à l'ancien président. Nous ne voulons pas qu'il paye, effectivement, les actes de son fils. Mais tout de même, nous avons aussi le droit de garantir sa sécurité par rapport à ceux aussi qui ont perdu les leurs.
Ces propos du président Séni Kouché au pouvoir au Niger depuis le putsch qu'il a perpétré le 15 avril 1974 pour renverser Diori Amani illustrent clairement le sentiment de méfiance et de prudence qu'il éprouve toujours vis-à-vis de ce prédécesseur quelque peu encombrant. Nous sommes en 1985. Le président Diori Amani, après avoir passé 6 années enfermé dans des conditions particulièrement difficiles dans un camp militaire à Zinder, a vu sa peine assouplie. Il a été mis en résidence surveillée dans une villa à Niamey, lors du 10e anniversaire de son renversement. Mais avec l'attaque du poste frontière de Tchitbaraden par un commando, une opération que le pouvoir en place à Niamey attribue à la Libye et à son fils Abdoulaye Diori, la résidence surveillée de l'ancien président a été renforcée. Visites et conversations sont limitées. Mais cette situation ne durera pas bien longtemps, puisqu'en novembre 1987, le nouveau président Ali Chebou, qui remplace Séni Kouché, qui vient de décéder de suite d'une foudroyante maladie, décide de le libérer. Pour le président Diori Amani, qui vient de passer près de 15 ans enfermé dans son pays, c'est le début d'une nouvelle vie. Il peut enfin revoir ses nombreux amis chefs d'État qui, pour beaucoup, lui ont gardé toute leur estime. Abdoulaye Diori, son fils aîné, raconte.
Il était en contact permanent avec tous ses pères. Et au Maroc, il a eu à rencontrer même le président Mobutu, le président Niassimbe, tous ses pères.
Cette tournée chez ses pères, qui le reçoivent et lui témoignent son amitié, ne va pas sans une certaine tension. Sur les relations avec son ami Oufouet Boigny de Côte d'Ivoire, qui a payé la scolarité de ses enfants et s'est arrangé pour subvenir à leurs besoins pendant sa longue incarcération, plane une ombre. Certains proches du président Diori Amani ne pardonnent pas au président ivoirien de ne l'avoir pas prévenu du complot qui se tramait contre lui. D'autres évoquent même le soutien qu'il a apporté à l'opération du 15 avril 1974. Adou Adam, ancien membre du RDA, le Rassemblement démocratique africain, dont Amani Diori était l'un des pères fondateurs. Il a également été un des ambassadeurs du régime Diori.
Après sa libération, il s'est rendu à Abidjan, où il a eu des violentes explications avec le président Oufouet. Et je voulais vous dire simplement, aujourd'hui, une révélation que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Si le président Diori a décidé de prendre comme point de chute pour s'éloigner du champ politique nigérien, il a choisi le Maroc, non pas la Côte d'Ivoire, ça veut dire beaucoup de choses. Oufouet était bien informé, il l'a dit à lui-même.
Madame Ramatou Diori, pas mal de personnes accusent le président Oufouet Boigny d'avoir au moins su ce qui se préparait contre votre père. Certains estiment qu'il a soutenu le putsch en raison de son désaccord avec le président Diori sur la question du Biafra, où il n'était pas pour la partition, et sur la renégociation du contrat de l'uranium avec Paris. D'autres ont même vu le fait qu'il vous ait envoyé à Niamey à la veille du putsch comme un élément qui prouvait qu'il le savait, qu'il savait que votre père serait renversé. Qu'en pensez-vous?
Là, vous parlez politique, je ne parle pas politique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai accepté, avec le plaisir que vous pouvez imaginer, à la veille des vacances de Pâques, une proposition que m'avait faite le président Oufouet Boigny pour passer les vacances de Pâques à Niamey. Et il se trouvait que j'ai une de mes amies qui venait de perdre un frère et ma mère souhaitait ma présence aux côtés de cette amie pour l'assister.
Moumouni Diori, vous avez bénéficié vous aussi du soutien du président Félix Oufouet-Boigny de Côte d'Ivoire. Pensez-vous qu'il était au courant, comme beaucoup de personnalités l'attestent, du putsch contre votre père?
Dire qu'il était au courant, je ne saurais le dire. Je ne saurais vous dire s'il était au courant ou pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a vraiment... Il nous a... accueilli à bras ouverts et c'est lui qui nous a vraiment donné l'hospitalité, qui nous a payé toute notre scolarisation il a payé. Moi, j'ai fait mon MBA aux États-Unis et jusqu'à ce stade-là, c'est lui qui a vraiment tout pris en charge.
Monsieur Jaffa Issa Ibrahim, vous avez hérité des documents, des archives, d'un des principaux conseillers du président Diori Amani, notamment celles qui concernaient l'uranium, et même quelques-unes relatives à la question de ses relations avec certains de ses pairs. Vous faites partie de ceux qui pensent que Félix Houphouët-Boigny était au courant de la préparation du putsch.
Houphouët était bien au courant du coup d'État, parce qu'il le disait. Apaté Ba nous a rapporté qu'il lui avait dit que textuellement, je vous cite, « Diori ne m'écoutait plus. Il a passé 3 jours auprès de moi sans me parler de la Libye. Et il a même ajouté que Diori m'a trahi, il aura bientôt des histoires. » À Ampaté Ba, exactement ces termes.
C'est Houphouët qui dit ça à Ampaté Ba.
Diori m'a trahi, il aura bientôt des histoires.
Mais si le président Houphouët était au courant du coup qui se préparait contre lui et qu'il le savait, pourquoi avoir laissé ses enfants chez le président Houphouët pendant toute cette période puisqu'ils ont continué de vivre avec Houphouët-Boigny et leurs études étaient financées par le président Houphouët-Boigny?
Déjà pas tous, mais ça je trouve que ça il y a quand même il y a le côté politique, mais aussi quand même le côté sentimental. Il était assez lié quand même avec... En plus, c'est des gens qu'il a vu naître et grandir.
Mmh.
Alors, ne serait-ce que ça, mais ceci dit, le soutien même après, ce n'a pas été toujours le cas. Hein. Je me rappelle de, par exemple, pour il y a eu quelques soucis avec les hypothèques sur l'appartement de Diori, où Houphouët n'était pas du tout intervenu pour régler ce problème. C'est Omar Bongo qui l'a fait. Houphouët a refusé de le faire. Voilà.
Abdoulah Diori Amani, vous avez écouté ces rumeurs, notamment sur les raisons des dissensions avec votre père. Avez-vous souvent entendu ce débat sur la renégociation du prix d'achat de l'uranium qui les divisait?
Quand le président Houphouët paie sur son âme, qui nous a accueillis après le coup d'État et qu'on lui doit tout, il a comblé un très grand vide, nous a dit que... Il avait dit à notre papa ce que tu réclames pour l'uranium n'est pas raisonnable, parce que c'est comme si moi je demandais de payer le prix du cacao au prix de la tablette de chocolat, alors qu'il n'en était rien. C'était sur la valeur énergétique qu'il avait demandé les négociations. Qui, du reste, avait presque abouti.
On a beaucoup parlé des différences de point de vue entre les deux présidents, notamment sur la question du Biafra et sur la relation de Diori Amani avec la Libye que le président Houphouët-Boigny n'affectionnait pas particulièrement.
Houphouët a une arabophobie très très notoire, donc il ne lui a jamais pardonné ça, même après d'ailleurs il lui en voulait.
Abdoulah Diori, je sais que dans la famille, vous êtes toujours gardé de parler de ce point de désaccord entre votre père et le président Houphouët-Boigny. Je connais la pudeur que vous avez à parler de cette relation et la gratitude que vous éprouvez vis-à-vis du président Houphouët-Boigny. Mais ce n'est pourtant pas un crime de parler des sujets qui les divisaient, sur lesquels ils n'étaient pas d'accord.
Bah, écoutez, moi je ne peux pas vous l'affirmer, mais toujours est-il que ils étaient un peu en brouille pour 3 raisons. La première... c'était d'abord la guerre du Biafra, la position que le président Diori a eu à prendre, parce que d'abord c'était un seul et même peuple, et ensuite il disait absolument qu'il a œuvré toute sa vie pour l'unité nationale de ce pays, il n'est pas question qu'il favorise la désintégration de la République fédérale du Nigeria. Et vous savez que ce sont les mêmes peuples de part et, de part et d'autre. Les Hausa, les Peul, les Kanuri et même les Germa, ce que les gens ne savent pas, parce qu'à Kébi et à Sokoto, les Germa représentent la deuxième ethnie. Donc sur 1500 km de frontière, nous avons les mêmes ethnies de part et d'autre. Donc le président Diori disait qu'il était hors de question qu'il œuvre à la désintégration de la République fédérale du Nigeria. Et c'était... l'un des points de désaccord avec son ami et frère Félix Houphouët-Boigny. Le deuxième point, c'était son rapprochement avec la Oumma islamique, le Niger qui est pratiquement presque la grande majorité, peut-être à 96%
98.
Donc ne pouvait pas être en dehors de la Oumma islamique. Et ça, c'était aussi un autre point de désaccord.
Et sur la responsabilité de la France dans le pot, sur ces archives que vous détenez, Monsieur Jafar Issa Ibrahim, et que vous m'avez permis de consulter en partie, parle-t-elle de cela?
Non, mais c'était plutôt le groupe Focard, c'est pas la France. C'est le groupe Focard, puisque à l'époque, quand même, il n'y avait pas de, il faut dire qu'il n'y avait pas de gouvernement.
Il n'y avait pas de gouvernement en France parce que le président Georges Pompidou venait en fait de décéder.
Diori Amani, l'ancien président du Niger, est décédé en effet hier à Rabat à l'âge de 73 ans. Il avait été l'invité l'an dernier de notre journal et nous lui avions demandé ce qu'il pensait de ces coups d'état militaires à répétition dont lui-même avait été victime.
Chaque militaire africain se considère comme un petit De Gaulle. Il croit, chaque militaire africain croit qu'il a son 18 juin 1940. Et ensuite, il y a l'esprit d'imitation. À partir du moment où des gens qui étaient sous-officiers dans l'armée française, du jour au lendemain, de père du régiment deviennent père de la nation, la tentation est très grave. Et il faut connaître aussi que c'est des gens qui ont été frappés d'une sorte de numerus clausus dans l'armée française. Aucun officier n'a jamais commandé une compagnie quand il était dans l'armée française. Et le bâton maréchal de l'officier à titre indigène, c'était le grade de capitaine. Du jour au lendemain, je suis trouvé propulsé capitaine et même généraux.
Nous sommes en avril 1989, lorsque Radio France Internationale annonce cette nouvelle du décès du président Diori Amani, qui était depuis quelque temps hospitalisé dans une clinique à Rabat, au Maroc. Le Maroc, une destination, un pays qu'il affectionnait. Ramatou Diori, avez-vous vu votre père dans les derniers moments? Lui avez-vous parlé? On a souvent dit qu'il était très amer.
Je peux vous dire, Monsieur Foucault, que la dernière fois où j'ai vu mon père, donc il venait, en 1989, il venait sur le Maroc. Sa principale préoccupation, c'était son pays. Et je lui ai même posé cette question parce que je l'ai trouvé très soucieux. Et je lui ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis préoccupé par la situation que vit mon pays. Et je lui ai répondu, mais papa, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'on t'a fait, et il me dit, mais ma fille, tu n'as rien compris. Mon pays ne m'a rien fait. Et tant que je serai vivant, et tant que je pourrai aider mon pays, je le ferai.
Mais pourquoi être parti alors qu'il était élargi, qu'il aurait pu rester sur place et participer aux jeux politiques qui s'ouvraient, puisque Ali Chebou rendait finalement le pouvoir aux civils?
Il n'était pas parti. Il est venu pour passer le mois de carême et assister aux causeries religieuses avec sa Majesté Hassan II.
Moumouni Diori, vous l'avez eu au téléphone?
Je l'ai eu au téléphone, il me semble, un ou deux jours avant son décès. Et parce qu'il était question que je passe ce qu'on appelle aux États-Unis ma graduation. Et il avait promis de venir aux États-Unis pour cette cérémonie. Mais malheureusement, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, il n'a pas pu assister à cette cérémonie.
Plusieurs années se sont écoulées depuis la disparition du président Diori Amani. Quel bilan peut-on dresser de son passage à la tête de l'État du Niger? Que reste-t-il de son règne, Monsieur Adou Adam, vous qui étiez un de ses collaborateurs?
Lors de la conférence nationale souveraine à Niamey, l'USTN, donc ce n'est même pas notre parti, c'est l'USTN, le Syndicat National des Travailleurs du Niger, qui a fait une déclaration sur la BDRN. C'est que la BDRN, au moment du coup d'État, avait 17 milliards placés en Suisse et elle fonctionnait avec 11 milliards. Et au bout d'un après le coup d'État, les militaires ont rapatrié tout cet argent et la BDRN, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Au moment
il faut expliquer ce que c'est la BDRN.
La Banque Nigérienne de Développement.
Tout à fait.
Alors, vous pouvez par exemple vérifier dans le rapport de la Banque mondiale de 1975, le Niger avait une dette extérieure de 400 et quelques millions. En 1982, ce n'est plus quelques centaines de millions, c'est des centaines de milliards de dettes extérieures. Le boom de l'uranium dont on parle, ça n'en était pas un vraiment. Bon, maintenant, je vais vous dire, il y avait 73 sociétés d'État ou sociétés de promise au moment du coup d'État. Il y avait 63 qui accusaient un bénéfice, qui n'avait pas de problème de gestion. 63 sur les 73. Aujourd'hui, aucune d'elles n'existe pratiquement ou a été bradée ou sont bradées. Et le Niger patauge dans les difficultés.
Monsieur Loutou, vous étiez vous aussi un de ses collaborateurs. Vous avez ensuite travaillé avec les régimes suivants. Quel bilan dressez-vous?
Quand le président Diori avait été renversé, le budget du Niger était de entre 12 et 13 milliards de francs CFA. C'était tout. Entre 12 et 13 milliards ce soir. Vous savez, et la corruption que nos pays connaissent aujourd'hui, mais elle était complètement ignorée à cette époque-là. Et les fonctionnaires vivaient chichement à leur hauteur. Il n'y avait pas des gens avec de grandes villas, de grandes voitures et tout cela. Ça, tout le monde pourra vous le dire, Alain Foucault. La notion de la corruption, elle est apparue après en Afrique. C'est apparu le président Diori que les gens se sont mis à vouloir s'enrichir très, très rapidement.
Monsieur Adouadam.
Tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que l'image du Niger que le régime du président Diori a laissé, on n'a pas pu encore la retrouver aujourd'hui, aussi bien sur le plan inter-africain que sur le plan international. Vous savez, le président Diori a été médiateur de plusieurs conflits en Afrique, il a été président des institutions africaines comme l'OCAM, comme l'UAM, etc. Et puis il y avait le Niger avait une image qui dépassait largement et ce qu'il représentait au point de vue économique en Afrique. Et jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas encore retrouvé cette position-là dans le monde.
Madame Ramatou Diori Yamani, je sais que vous avez souffert des accusations de corruption que l'on a collées à une certaine époque à l'image de votre père. Avec le recul, et lorsqu'on l'on voit comment sa dépouille a été accueillie à Niamey, pensez-vous qu'il a été réhabilité?
Je trouve justement qu'il n'a pas du tout été réhabilité parce que, qu'on le veuille ou non, il est le père de la nation nigérienne.
En tout cas, en France, sa mort aura suscité une certaine gêne chez quelques personnalités qu'il avait abandonnées. Sa volonté de modifier les contrats avec la France sur l'uranium continue de susciter des débats. Et quelques archives collectées ça et là tentent à accréditer cette option adoptée par certains responsables influents de l'Élysée, celle de se débarrasser de lui. Archives d'Afrique consacrées à Diori Yamani se termine sur cette réflexion. Si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire, je vous recommande un excellent livre écrit par Jacques Bollin aux éditions Eurafort Presse, conseiller du président Diori, c'est le titre. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, vous pouvez à nouveau jouer pour gagner les coffrets Archives d'Afrique sur notre antenne en répondant aux questions qui vous seront proposées. À très vite.